Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est chaque soir un entretien d'une heure avec les artistes qui sont dans l'actualité culturelle et ce soir avec Riyad Satouf.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te dire.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
C'est infini une enfance si on la déplie, si on a la patience, la force et le goût pour ça, ça vous remplit au moins 5 tomes de romans graphiques écrits serrés, voire plus. Rouge pour ce qui marque, bleu pour la France, rose pour le Moyen-Orient, vert pour le cartable, quelques feuillages et quelques images. Et ça doit être quelque chose comme ça, une enfance qui vous revient en détail, des taches de couleurs d'abord, des formes, des taureaux sur le téléviseur, des danseuses de Degas accrochées au mur, des écrans de télévision, des maisons aux murs qui craquent, des maisons aux portes qui claquent, des combinés de téléphone avec la voix du père dedans. La puissance de l'écriture de soi, c'est qu'elle dépasse l'écriture de soi, et c'est ça qui est assez fou. Dans votre série L'Arabe du Futur, Riyad Satouf, combien toutes les enfants, si éloignées de la vôtre, peuvent y trouver place et écho. C'est probablement pour ça qu'on vous lit au Brésil, aux États-Unis, en Tchéquie, en Serbie, ailleurs et en France, parce que vous venez de faire paraître le tome 4. C'est donc peut-être l'avant-dernier, ou peut-être l'avant-avant-dernier.
En tout cas, je sais que l'histoire doit se terminer à un moment.
Bientôt.
Mais je ne sais pas quand. En combien de volumes? Peut-être deux volumes encore.
C'est aux éditions Alary. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Marie Richeux, merci.
Ravie de vous accueillir.
Peut-être cette propension à me souvenir fait que voilà, j'ai écrit un livre qui traite de ça et aussi que je fais ce métier-là, c'est sans doute pas par hasard. J'avais beaucoup beaucoup aimé un livre de Joyce Carol Oates qui s'appelle Paysage perdu, qui est une de ses dernières publications, où elle disait que peut-être un écrivain, c'est quelqu'un qui s'interroge plus qu'un autre enfant sur le mystère des adultes et qui a cette fidélité aux questions d'enfance. On peut retourner dans les lieux de son enfance en écrivant, parce que dans les pages du livre, dans les pages d'un livre, on peut vivre. Et c'est vrai que moi j'aime ça, quoi, de retourner dans l'enfance. Et l'écriture m'a permis ça vraiment, d'être là-bas, quoi. J'ai traversé le salon, j'ai longé le couloir, j'étais dans la chambre de mes parents, je me suis allongée dans la mienne, j'ai écouté la musique que j'écoutais à ce moment-là, et j'y étais.
C'est d'archives d'Isabelle Carré qui racontait à l'occasion de la parution de son livre l'année dernière à ce micro que peut-être la raison pour laquelle elle est comédienne et auteure, c'est qu'elle a été cet enfant-là qui a beaucoup posé des questions sur ce que sont les adultes et est restée l'adulte qui continue d'être fidèle à ces questions-là, Riyad Satouf. Est-ce que vous vous diriez que ça s'est passé dans ce sens-là? C'est parce que vous avez été un enfant attentif, observateur, précisément observateur, que vous êtes devenu l'homme qui raconte les histoires qu'il raconte?
Oui, c'est peut-être la raison. Après, c'est vrai aussi que comme je garde beaucoup de souvenirs très précis de ma propre enfance, je la vois un peu comme un moment beaucoup plus intense, en fait, que l'âge adulte aussi. C'est que le temps qui passe, on s'habitue à la vie, on s'habitue aux sentiments, aux émotions et aux sensations, en fait. Et
c'est vrai que le...
c'est vrai, je généralise peut-être « je ». Alors, je me suis habitué à ça, peut-être. Et le fait de retourner dans les souvenirs d'enfance, c'est vrai que c'est pour retrouver quelque chose de peut-être plus primitif. Je sais pas, moi j'aime beaucoup repenser à ces années-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que les souvenirs sont restés très nets dans ma tête. C'est que je m'y réfugiais souvent, même si c'était pas forcément des souvenirs toujours très agréables. Mais le fait d'être passé au travers de tous ces moments et de toutes ces émotions, ces sensations, ça reste présent, oui. Dans ma vie de tous les jours, je vois souvent des gens ou des je sens des odeurs, je qui me rappellent lointainement ces années-là.
C'est assez frappant, c'est la précision avec laquelle ça vous revient. Vous dites, je les ai toujours gardés précis. Ça veut dire que c'est pas le travail qui s'est engagé pour l'Arabe du futur qui les a fait revenir avec précision?
Non, je crois pas. Non, c'était toujours très présent dans ma tête. Et je crois que la sensation la plus forte, en tout cas, qui fait revenir le plus de sentiments, de sensations, c'est l'odorat. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus fort que la vue ou que les souvenirs. Enfin, c'est vrai que quand je marche dans la rue, parfois, il y a quelques jours, là, je marchais dans la rue, j'ai senti une odeur de fumée qui est sans doute sortie par une cheminée ou quelqu'un faisait du feu de bois. En fait, ça m'a, sans que je le désire, enfin, sans que je le souhaite, ça m'a ramené exactement dans la maison de ma grand-mère où je me suis souvenu de ces moments où elle allumait son feu, etc. Puis j'ai revu le mur. Enfin, c'est très étrange la mémoire. Je crois que, en tout cas, dans ma tête, c'est très relié à l'odorat.
Ça fait longtemps que vous y pensez à ce projet-là. Vous racontez souvent que finalement vous auriez pu tout de suite commencer par l'Arabe du futur et qu'en fait ça s'est présenté un petit peu plus tard dans votre carrière de publication. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce temps-là et pourquoi ce temps-là était peut-être important?
Je crois qu'il était très important parce que c'est vrai que très très tôt je me suis dit que c'était intéressant à raconter. Parce que c'était un voyage déjà et que moi personnellement j'adore les récits de voyage. Alors je ne vais pas me comparer à eux, mais j'adore les récits d'explorateurs, d'aventuriers, etc. Les gens qui vont dans d'autres pays, d'autres sociétés, tous les récits du début du XXe siècle, etc. J'adore cet univers-là de un peu rude, etc. J'étais persuadé que ces années en Syrie, au Moyen-Orient, avec la famille de mon père, etc., pouvaient donner lieu à un livre ou à des livres. En tout cas, surprenant peut-être pour les lecteurs, parce que souvent quand je parlais du monde arabe, sans parler de généralité, mais quand je parlais de la Syrie ou de ma vie dans ce village, etc., les gens je me rendais bien compte que personne ne comprenait ou ne visualisait ce que j'avais dans la tête. Et donc j'étais certain qu'il y avait quelque chose de bien à raconter. Mais après, j'avais peut-être pas encore la maturité pour le faire. J'ai retrouvé là, ils sont en train de préparer une exposition à la BPI du Centre Pompidou. Les gens qui cherchaient des dessins, mes dessins pour les exposer, sont retombés sur des dessins très anciens qui datent du lycée où je commençais déjà à dessiner un petit bonhomme un peu blond, etc. Et c'était, enfin, rien que de les regarder, je me sens mal parce que c'était très très mauvais, mais j'avais déjà ce désir de raconter ça. Et je crois que ça s'est déclenché, alors à cause de plusieurs choses, mais ça s'est déclenché aussi à partir peut-être du moment où je me suis rendu compte que j'avais vécu ma vie ma vie avait été plus longue en tant qu'auteur de bande dessinée qu'en tant qu'enfant et ado en lien avec le Moyen-Orient. C'est-à-dire que maintenant, ma vie, j'ai 22 ans de vie d'auteur de BD et peut-être 18 ans de vie un peu avec ma famille, etc. Donc je suis plus un auteur de BD, je suis plus à l'aise avec mon histoire.
Oui, je me suis dit qu'en fait, ça c'était possible parce qu'en fait, l'enfance était terminée. Mais vraiment terminée. C'est-à-dire qu'on peut terminer son enfance à 45 ans ou à 70 ans ou sans en avoir terminé avec son enfance. Et moi, j'ai eu vraiment la sensation en lisant les 4 tomes que c'était possible d'un point où on en avait, entre guillemets, un peu terminé avec l'enfance. De raconter ça comme ça.
Peut-être, c'est possible. C'est vrai que c'est tellement intellectualisé. Il y a un truc assez vertigineux aussi parce que j'ai pas l'impression de... Comme j'ai une mémoire de ces années-là qui est très nette, pour moi c'est une vraie continuité, donc j'ai jamais l'impression d'avoir tellement changé. Ce qui a changé, c'est que j'ai peut-être moins peur du lendemain, parce que je subis à mes propres besoins. Voilà, je sais pas, je gagne ma vie, et même encore ces peurs-là sont encore présentes, mais pour moi je suis toujours un peu le même. La force qui me pousse à aller dessiner me semble être la même que celle que j'avais quand j'étais au collège ou au lycée. L'envie de voir quelque chose apparaître sur ma feuille, de m'auto-fournir une vision, m'auto-hypnotiser de quelque chose. Donc c'est toujours la même chose. Mais peut-être voilà le temps qui passe. Oui, on est face à ça. Maintenant quand je vais en librairie et que je vois une jeune fille d'1m90 qui me voit, qui me regarde et qui me dit avec une grosse voix, tu sais, elle est magnifique, avec... elle est médecin, etc. Elle me dit extrêmement sérieusement en me regardant dans les yeux, vos livres... Ils ont accompagné toute mon enfance. Voilà, j'avoue que pour moi, j'ai l'impression d'être plus jeune qu'elle, en fait, quand je la voyais comme ça. Donc c'est vrai que c'est le temps qui passe et ça... Voilà, il y a un rapport vertigineux à tout ça et je me rends pas bien compte, en fait, je dois bien avouer. C'est pas très mentalisé, très intellectualisé.
Et en même temps, tout à l'heure, Isabelle Carré, elle disait, voilà, moi j'y suis retournée en écrivant ce roman, je suis retournée dans les pages, dans les endroits que j'ai habités, auprès des gens que j'ai aimés, avec qui j'ai passé mon enfance. Et Évidemment, on est dans chacun des endroits que vous dessinez, que vous racontez, avec chacun des êtres que vous nous présentez. Cependant, je trouve que tout est très regardé avec un tout petit peu de distance, qui fait que nous, on a un peu de place pour être là aussi, quoi.
C'est vrai que moi, en tant que lecteur ou spectateur, je ne suis pas un grand amateur des récits autobiographiques. Parce qu'en fait, je suis très critique. Alors peut-être parce que j'ai moi-même ma propre histoire et j'ai tourné autour de la façon de la raconter pendant très longtemps. Mais souvent, je trouve que les récits autobiographiques sont ou trop indulgents. L'auteur est trop indulgent avec lui-même, en général. Alors, dans le cas des BD, souvent, les auteurs de BD, je trouve qu'ils se dessinent trop beaux quand ils font des récits autobiographiques. Et quand on les voit en vrai... Moi, je suis souvent assez gêné. Enfin, voilà, ils ont une manière d'être trop sympa avec eux-mêmes. Et souvent, les récits familiaux, que ce soit en roman ou en BD ou même parfois dans les films, etc. Il y a aussi trop d'indulgence envers la famille. Je sais pas. On voit bien que les parents sont pas si fantastiques que l'auteur veut bien nous les montrer, mais il veut nous montrer son.
Se les montrer
à lui-même. Il refuse de voir les choses en face. Et c'est vrai que à cause de ça, je suis très critique vis-à-vis de ça. Et donc moi, quand j'ai été amené à raconter mon histoire, je voulais d'abord que ce soit, il y ait un peu de comique dedans. Enfin, que ce soit tourné vers l'humoristique. Parce que je pense que, en tant qu'auteur, enfin, c'est mon avis uniquement, je trouve que le comique, c'est un truc en plus pour le lecteur, pour lui donner envie de lire. C'est pas seulement se plonger dans une histoire réaliste ou déprimante. Il peut aussi rire un peu à différents moments. Et donc, je lui fais de la place aussi pour le lecteur. Voilà, je l'emmène avec moi dans ce voyage. Je lui explique bien tout et j'essaie de lui montrer toutes les différentes façons de... tous les différents sentiments, en fait. C'est de ne pas orienter les choses que dans un seul sens.
Et ça supposait qu'il fallait ne pas, d'une part, être tendre avec vous-même et le souvenir de l'enfant ou de l'adolescent que vous avez été, mais ne pas non plus être tendre avec votre mère, ne pas non plus être tendre avec votre père, ne pas non plus être tendre avec vos frères. Quand je dis pas tendre, ça veut dire pas exempt de tendresse, mais ça veut dire ne pas modifier, ne pas arrondir les angles, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et ne pas arranger, ne pas protéger, ne pas être le plus sincère avec les faits de, voilà, mes souvenirs. Et comme je tournais tout sur le ton un peu humoristique, parce que même mon dessin est un petit peu déformé, etc., j'aime bien dessiner des personnages avec des trognes un peu... En fait, c'est comme ça que je vois les gens, mais c'est ma façon de montrer le...
Là, j'ai un gros nez, par exemple. Un très gros nez, des gros yeux.
Là, vous avez un petit peu des cernes. Ah, je vous dessinerai avec des cernes.
Ouais.
Mais c'est pas grave, tout le monde a des cernes. C'est normal.
Et qui est fatigué a des cernes,
voilà,
c'est la vie, c'est
comme
ça.
Vous avez dit que vous aviez une fille, je pense qu'elle se réveille tôt, certainement, et je vous dessinerai avec des cernes. Mais ça veut pas dire que c'est ma façon de voir le réel, en fait. Donc, pour moi, c'est réel, en fait, quand je dessine les personnages comme ça. Dans ma bande dessinée. Voilà, pour moi, c'est très réaliste. Et c'est vrai que quand je vois les événements, souvent, je les vois aussi d'un point de vue humoristique. J'essaie de toujours tout tourner pour être peut-être moins déprimé. Je sais pas si c'est ça, mais je regarde tout sous l'angle comique tout le temps.
Et alors, c'est grave si je vous dis que moi, j'ai trouvé que c'était très grave parfois, qu'il y avait énormément de gravité,
surtout dans
Stone Cat, par exemple.
C'était aussi le souci de cette histoire, c'est que c'est une histoire qui est aussi grave. Et dans ce tome 4, il y a l'événement qui a fait que j'ai raconté tout l'Arabe du futur depuis le début. Les trois premiers volumes gravitent autour de ce qui se passe à la fin de ce tome 4. Et justement, j'ai tourné autour, comme dans un vaisseau spatial, en me disant comment je vais passer à côté de ce trou noir. La seule façon de pouvoir passer à côté et de l'observer, c'est de passer par aussi l'humour. Parce que raconter une telle histoire de manière très sérieuse, etc., c'est faisable, mais c'est terriblement... Je vais employer un mot jeune, relou. Voilà, je dirais, c'est un truc j'aime pas les
livres relous, c'est pas pour vous.
J'aime pas quand c'est trop dramatique, parce que, personnellement, c'est juste mon avis, je trouve ça un peu facile à faire. Je trouve que c'est plus dur d'être rigolo que de faire des trucs dramatiques. Mais bon, là, ça n'engage que moi, en tout cas.
Vous avez probablement raison.
Pour moi, un des mythes profonds et inquiétants du monothéisme, c'est le mythe d'Abraham qui égorge son fils. Je veux imaginer tous mes livres comme étant la révolte de ce fils qui ne veut pas être égorgé. Je veux faire le procès de ce père qui est capable, sur un rêve, d'égorger son fils. Je veux rééquilibrer. Je veux donner le droit de parole au fils. Je veux qu'il y ait un rapport guéri entre les deux. Un père qui veut égorger son fils, c'est un père à qui il faut tenir tête. Je pense que c'est une des grandes questions de sa propre vie. Comment subir le père et comment être père à son tour? Je veux dire, à la fois, c'est une question de vie et de mort réellement. Je me sens inquiété, je me sens coupable. Je répète souvent cette phrase et j'y tiens. J'aimerais mériter d'être un ancêtre pour mes enfants, mes arrière-petits-enfants.
Il nous faut au moins la voix d'Eddie Cramp, très 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 ralentie pour faire suite à la voix très rapide de Kamel Daoud en 2017, qui, au micro d'Augustin Trappenard, disait tout l'enjeu qu'il y a pour lui dans sa possibilité, dans sa nécessité d'écrire, de faire répondre le fils au père. Et j'ai trouvé, Riyad Sattou, si on parle de l'arabe du futur comme étant le récit d'enfance, que très rapidement ça devient aussi le récit du père, ou ça devient le récit de ce que c'est que votre père, ou de ce que c'est que peut-être un père parmi d'autres. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il prenne autant de place?
J'avoue que quand j'ai commencé à faire le livre, pas vraiment. Je voulais raconter ces années au Moyen-Orient, la Libye, la Syrie, etc. Et quand j'ai commencé à écrire l'histoire, d'un seul coup, il est apparu en fait comme le personnage central, et il m'a débloqué parce que finalement, je savais pas si j'allais centrer la chose sur moi, ou c'est en faisant que j'ai trouvé, et je me suis dit mais oui, si c'est lui, c'est le personnage principal, c'est lui qu'on a suivi pendant des années, c'est lui qui nous a emmenés, c'était toujours ses désirs qui étaient en premier, auxquels on devait s'adapter. Donc c'est vrai que la question du père est centrale. Après c'est marrant ce que dit Kamel Daoud, parce que il cite la Bible. Moi c'est un autre passage de la Bible qui m'avait vraiment marqué, d'ailleurs au travers des livres de Alice Miller que j'avais lu quand j'étais enfant, enfin plus ado disons.
Enfant.
Oui, enfin ado. Bon, pour moi je suis enfant quand je suis encore ado, mais je les avais lus très jeune, dans Le drame de l'enfant.
On dit qui c'est quand même, peut-être Alice Miller.
C'est une psychanalyste qui a travaillé sur la transmission et l'éducation des enfants, et la transmission de la violence de parents à enfants.
Inconsciente parfois.
Inconsciente bien sûr. Et elle disait que le grand drame des êtres humains, bon, je ne veux pas synthétiser sa pensée comme ça, je ne suis pas assez spécialiste, mais c'était un des 10 commandements qui disait « tu honoreras ton père et ta mère » comme étant un péché mortel. Voilà. Et qu'en fait, justement, le fait de « tu honoreras ton père et ta mère » interdit de questionner leur
honneur,
qui ils sont et ce qu'ils font. C'est de dire « ils ont toujours leur raison ». Ils ont toujours une bonne raison pour faire ce qu'ils font et tu dois les respecter. Ça. Et en fait, mettre à bas les références parentales, c'est la principale, c'est la principale action à faire si on veut progresser. En fait, c'est contre ça qu'il faut lutter. Mais c'est aussi ce que dit Kamel Daoud avec la New, en effet.
De donner la parole aux fils, mais alors finalement, peut-être une manière de les mettre à bas est une manière de les regarder. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne violente pas tant la figure du père ou de la mère dans l'arabe du futur, mais qui simplement les regarde. C'est déjà énorme.
Oui, voilà, oui, oui. L'idée, c'était de ne pas protéger du tout les personnages, de montrer ce qu'ils avaient fait, comment ils l'avaient fait, comment les choses qu'ils avaient dites. Et c'est vrai que souvent, quand je me dis... je cherche vraiment à être vraiment très, très honnête. De temps en temps, dans les librairies, des gens me disent... je fais des rencontres, etc. Et parfois, il y a des lecteurs qui me demandent et qui me disent « Mais vous n'avez pas eu peur de blablabla ?» Alors, ou choqué, blablabla, ou des réactions de votre famille. J'avoue que à chaque fois que je sens que je pourrais avoir peur de dire quelque chose, c'est la chose que je vais dire. Je me dis « Ah non, non, attends, ça, je le dis ou pas ?» Ah, mais si, bien sûr, c'est ça qu'il faut raconter. Et voilà, et c'est ce qui me guide.
Est-ce que c'est lui, l'arabe du futur ?
Non, en fait, c'est très difficile de généraliser comme ça. Pour moi, l'arabe du futur, c'est vraiment cette phrase qu'il me disait quand j'étais enfant et que j'ai dit dans le tome 1, c'est quand je voulais pas aller à l'école, il me disait « Tu dois aller à l'école parce que l'arabe du futur va à l'école ». En opposition, pour mon père, à l'arabe du passé qui était illettré et analphabète, parce que c'était toute sa famille, comme il était le seul de sa famille à savoir lire et écrire. Et voilà. Et j'aime beaucoup cette petite phrase, l'arabe du futur, parce qu'elle porte en elle une nostalgie désuète du nationalisme, et puis en même temps, elle parle d'une époque et aussi du futur, et il y a futur alors qu'on raconte le passé, et un enfant c'est un futur, etc. Enfin, voilà, il était parfait ce titre. J'étais très content de l'avoir trouvé.
Vous montrez aussi un père qui, justement, a une vision du panarabisme, de la manière dont l'école en Syrie fonctionne, dont peut-être cette nation est capable de se projeter dans le futur. Vous montrez un homme qui n'arrive pas exactement à regarder le monde dans lequel il vit avec lucidité.
Oui, mais c'est aussi parce que je crois que c'est ce que je raconte dans les livres aussi, comme il avait eu une enfance vraiment disons que je pense qu'il avait grandi dans des conditions où c'était les mêmes que au Moyen-Âge par exemple. Il avait pas d'électricité, pas d'eau et les gens ne mangeaient que ce qu'ils avaient cultivé et c'est vraiment son village avait eu l'électricité et l'eau très très tard quoi. Et donc, il était devenu quelqu'un, c'était trop vertigineux ce qu'il avait parcouru, sans doute. Et donc, il n'était pas capable, il pensait qu'il avait un destin, comme beaucoup de gens qui viennent de très loin et qui sont devenus, qui sont sortis un peu de leur condition de départ. Ils pensent qu'ils ont été choisis par une force. Et mon père était très sensible aux figures comme ça qui se pensaient elles-mêmes prédestinées. Et c'est quelque chose qui est très présent chez les dictateurs du Moyen-Orient, ils se pensent tous prédestinés. Saddam Hussein, auquel mon père s'identifiait beaucoup, avait le même type de destin. Il avait grandi dans un village misérable, frappé par les autres, etc., frappé par son beau-père. Il s'était enfui, il avait rejoint son oncle. C'est son oncle qui lui avait appris à lire et à écrire. Ensuite, il avait fait un coup d'État. Et mon père espérait un jour faire un coup d'État pareil. Il se mettait dans cette lignée d'hommes venus de la terre et ayant accédé aux plus hautes responsabilités. Mais il y a toujours, je me rappelle, avant que le maréchal Sissi là, devienne le dictateur égyptien, il avait dit qu'il avait eu un rêve qui lui expliquait qu'il allait devoir diriger l'Égypte. En fait, c'est des types qui ont... Ils tiennent pas la pression. Je ne sais pas comment dire. Ils sont pas... Ils perdent les pédales à un moment.
Et finalement, il fait un autre coup d'État ou coup d'éclat à la fin de ce livre-là, et dont vous disiez tout à l'heure que c'est le trou noir autour duquel peut-être gravite l'ensemble de l'écriture de l'arabe du futur. Donc ça, ce serait pour votre père. Et comment vous décririez la manière dont votre mère suit le mouvement, mais pas que, tient tête à plein de moments? J'ai l'impression que c'est aussi l'espèce de fil rouge de lucidité. Je disais, votre père parfois est décrit comme quelqu'un qui n'arrive pas exactement à voir le monde tel qu'il est en train de se dérouler sous ses yeux. Je dirais absolument l'inverse pour votre mère.
Oui, puis je crois aussi qu'il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus concret en général dans toutes les histoires des gens. Enfin, en tout cas dans ma famille, il y a quelque chose de très concret qui est le pognon. Et en fait, comme mon père rêvait d'être très très riche, mais il n'avait pas d'argent, enfin, c'était aussi l'argent qui l'a emmené travailler en Libye pour Kadhafi, parce qu'il était payé en dollars, alors il était payé 3000 dollars, c'était pas mal à l'époque, donc il a été payé sur un compte offshore à Jersey, il y avait tout un truc, mais il ne voulait pas toucher à cet argent, et donc ma mère pensait qu'un jour ou l'autre, il deviendrait très très riche. parce que
c'est aussi l'arabe du futur, cette espèce de manière de
la
vivre la
du
vie.
Pognon.
Oui. Non, mais je sais pas, non, mais
c'est,
de vivre non, mais
c'est
la
très
vie
important.
Plus tard.
Je pense que quand on n'a pas d'argent, on rêve d'en avoir. Enfin, en tout cas, moi, dans ma famille, c'était, ils parlaient d'argent toute la journée, le fait de ne pas en avoir, d'avoir gagné un peu d'argent qui nous permettrait d'avoir ceci ou cela, d'espérer d'avoir de l'argent plus tard. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, quand ma mère s'est rendue compte que mon père n'allait sans doute pas gagner beaucoup d'argent, que c'était super galère, qu'elle s'est dit, moi, il faut que je me mette à travailler aussi pour en gagner. Mon père n'a pas voulu qu'elle travaille. Et donc, c'est à ce moment-là que le grand écart s'est fait. Mais c'était vraiment quelque chose aussi de primitif, de subsistance, en fait. Avant d'être des grandes idées ou avant d'être... Et c'est aussi ce que je voulais montrer, c'est que la subsistance est essentielle. On oublie souvent ça. On commence par parler des idées, mais voilà, c'est vrai que mon père ne voulait pas donner son argent à ma mère, et ma mère voulait de l'argent pour vivre, et donc c'est ça qui a provoqué l'éveil de ma mère, en fait.
Chaque année, la Commission nationale consultative des droits de l'homme publie un rapport sur le racisme et sur la xénophobie en France. Rapport qui s'appuie sur des sondages et sur des enquêtes. Chaque année, par exemple, on pose la question aux Français. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'Arabes en France ? Cette année, 51% des Français ont répondu oui. Oui, il y a trop d'Arabes en France. Un tiers ont répondu qu'il y avait trop de Noirs et un quart trop d'Asiatiques. Mais il paraît qu'il faut s'en réjouir puisque c'est une petite amélioration par rapport à l'année dernière. À part ça, Fabienne Saintès, quelles sont les grandes tendances dégagées par ce rapport pour 98?
La grande tendance, c'est que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit et que certains devraient s'en souvenir. Il y a clairement une plus grande tolérance face au racisme. Je vous donne un exemple. Si on demande aux gens s'il est utile de renforcer les lois concernant la propagande raciste, ils sont 9% de moins que l'an dernier à répondre « oui, il faut être plus sévère ». 42% seulement, donc moins de la moitié, considèrent que ceux qui se rendent coupables de propos racistes doivent être condamnés. 32% pensent que la peine doit être légère. Le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme n'hésite pas à parler de professionnalisation du discours raciste. À côté de ça, il faut noter que cette année, aucune violence très grave n'a été comptabilisée. Il n'y a pas eu de mort en 98, c'est pour parler très crûment. Il n'y a pas eu de maghrébin jeté dans la Seine ou depuis un train, comme on a pu le voir quand même ces dernières années. Mais donc, il y a cette levée des interdits dans le discours. Soulignons quand même que le rapport met l'accent sur un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qu'on touche vraiment du doigt, c'est la discrimination dans le travail. Et à ce sujet, donc, 87% des gens trouvent grave de refuser une promotion pour des questions de couleur de peau. Donc le racisme institutionnalisé, c'est une honte. Non, disent les gens. En revanche, soyons tolérants envers les petites brimades dans les cages d'escalier ou dans le métro.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Et ça touffe.
Un jeune type aux cheveux longs, d'une autre classe, vint me parler. « Elles sont trop cool tes shoes, c'est pas des R, dommage, mais le jaune fluo est beau. Tu fais du skate ?»« Oui, j'imagine. » Il s'appelait Cédric. « Moi, je fais beaucoup de skate, mon père, il a une Goldwing, c'est une moto. Et le tien ?»« Non, hein. Un jour, j'en aurai une aussi. On va faire du skate après les cours ?» Et on s'est mis à faire du skateboard dans la rue après les cours. C'était mon seul copain garçon. Et il monologuait sans interruption. Quand il posait des questions, il y répondait à ma place. « Je m'entraîne pour faire des backflips. T'en as déjà fait ?»« Non, c'est ultra dur, faut mettre une impulsion. » Comme les cours finissaient tôt, cela nous laissait plein de temps. « J'adore les voitures téléguidées, et toi, t'en as ?»« Non, hein, moi j'en ai plusieurs. » C'était très agréable de foncer. « Dégage, sale pédé. Eh, fils de pute !» C'est chez nous ici, sale pédé, dégagez ou vont défoncer sale français. Fils de pute, va. Ils étaient plus jeunes que nous, mais plus nombreux. Des Arabes, on se tire. Ah, mais on est dans la rue, c'est à tout le monde, on a le droit d'être là. T'as dit quoi, sale pédé? T'as dit quoi? Je te vole ton skate, fils de pute. Nique ta mère, sale pédé! Mais t'es malade de leur avoir répondu. Nous, on a repris notre souffle un peu plus loin. C'est les Arabes, ils sont comme ça, faut les éviter. Mais on n'a rien fait. Si c'est leur quartier, on n'aurait pas dû passer là-bas. Mais pourquoi ils nous ont agressés? Mais c'est ça les Arabes, ils cherchent les embrouilles, c'est normal. Mais moi aussi je suis arabe, et je suis pas comme ça. Ah non, mais toi t'es pas arabe. T'es un Français, avec un nom arabe. T'es pas un vrai arabe. Pourquoi tu leur as pas parlé en arabe si t'es arabe? Je le parle plus, je l'ai oublié. Bah tu vois, t'es pas un arabe. Les Arabes sont toujours en bande, ils font du racket, ils agressent toujours, faut éviter leur quartier. Ils tuent des gens pour rien.
C'est très bien écrit.
C'est très bien écrit, hein. Mais c'est pas facile à lire.
C'est pas facile à lire. D'ailleurs, votre interprétation des insultes n'est pas...
C'est pas terrible.
Je referais bien la prise, si j'étais mon...
Et vous feriez quoi, alors, par exemple ?
Non, mais... Mais c'est vrai que quand on parle du racisme, moi, il y a une chose qui est très importante, et c'est vrai que souvent, quand on me pose la question, je me sens obligé de le dire, mais pour avoir beaucoup voyagé, notamment avec l'Arabe du futur, etc., et pour avoir grandi, au Moyen-Orient, etc., je dois admettre que j'aime beaucoup la France, parce que je crois que c'est un des seuls endroits où le racisme est une vraie question de société.
Et États-Unis, quand même.
Oui, mais par exemple, aux États-Unis, c'est un pays raciste.
Oui.
C'est-à-dire, le président qu'ils ont, c'est incroyable. Il y a des vraies lois racistes aux États-Unis. Il y a des lois qui interdisent aux musulmans d'entrer dans le pays. En France, il n'y a pas de loi raciste. Et donc, en fait, on interroge tout le temps. On entretient cette image que la France serait un pays raciste. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est un des pays, au contraire, où on peut... Où naît le débat de cette chose-là. J'aimerais qu'on me montre un pays moins raciste que la France. Par exemple, je suis allé au Japon. Dans les librairies au Japon, il y a des rayons entiers de livres sur le racisme, mais qui parlent du... Comment dire, il y a... Hitler, son livre, j'ai même oublié le nom de son
horrible
Mein Kampf, est un best-seller au Japon, il est vendu, illustré en BD, etc. Enfin, en Chine, il y a un racisme. Enfin, c'est vrai que parler du racisme en France, moi personnellement, je ne l'ai jamais expérimenté de manière, la société ne m'a jamais renvoyé une image. Moi, on s'est moqué du fait que mon nom avait un nom comique, ça touffe de poils, etc. Mais personne ne m'a jamais dit, je vous louerai pas ça parce que vous êtes arabe ou quelque chose comme ça. Je dis pas que ça existe pas, il y a certainement des gens très racistes, mais la France n'est pas un pays raciste, moi je pense pas.
Et c'est marrant parce que j'ai trouvé que le racisme était omniprésent, moi, dans le livre.
Moi, ça m'obsède, bien sûr.
Mais tous les racismes.
Mais c'est ça.
C'est-à-dire que l'antisémitisme est absolument omniprésent. L'homophobie est absolument omniprésente. Le fait d'être renvoyé au fait d'être blanc ou français, le fait d'être renvoyé au fait d'être arabe, y compris ce jeune garçon qui vous dit, mais en fait, non, toi, t'es pas arabe, tu parles pas arabe, ton nom est arabe, mais en fait, t'es un français. Enfin, on sent que c'est quand même une espèce de manière de régir les relations sociales qui n'est pas absente, Riyad Sattouf.
Mais en fait, justement, elle n'est pas absente dans mon récit, mais en fait, moi, dans les faits, si vous voulez parler en généralité, je ne pense pas que la France soit un pays raciste.
Mais j'ai pas forcément envie de parler en généralité.
Et moi, dans les faits, en fait, j'ai été souvent confronté à des gens qui avaient des préjugés sur mes origines ou sur moi, mais qui n'étaient pas forcément toujours dans le sens où on veut bien l'entendre, en fait. Quand j'étais en Syrie, le fait que j'avais une mère française, les gens, dans mon village, ils me traitaient de juif.
En permanence,
c'était une obsession permanente.
Quand ils jouaient à des petits jeux,
fallait se battre contre Israël, etc. Bon, il y avait ça. Ensuite, quand j'étais en France, c'est une anecdote que j'ai racontée, mais il y a quelque temps, c'était peut-être une dizaine d'années, j'avais discuté avec un acteur français d'origine algérienne qui avait son identité, mais un jour il me dit, mais toi tu t'appelles Riyad, mais pourquoi tu t'appelles Riyad? Alors je lui dis, mais parce que mon père était syrien, ma mère française. Puis il me dit, ah, mais t'es pas un vrai arabe alors. Alors que le mec, il avait grandi en France, il parlait pas arabe, il n'était jamais allé au Moyen-Orient, mais juste il avait un nom et peut-être une physique un peu plus. Et en fait, c'est des questions d'identité que je trouve passionnantes, parce que pour moi, en tant que tel, si on voulait parler d'arabitude, d'arabité, je l'étais 1500 fois plus que lui, en fait. Et c'est des questions d'identité que j'adore explorer dans l'Arabe du futur, parce que souvent on montre les choses peut-être de manière un peu simpliste en disant les Français sont effroyablement racistes ou les. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois. En tout cas, dans ma vie, je l'ai pas du tout expérimenté comme ça.
C'est peut-être parce que vous étiez à tellement d'endroits en même temps. Vous étiez tellement... Vous dites beaucoup depuis des années que le métissage empêche justement d'être capté par une identité de manière très très forte et donc empêche probablement des divisions trop 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 simples. Mais non seulement vous étiez à l'intérieur de vous composé de plein de choses, mais en plus vous avez tellement bougé. Donc peut-être que pour vous, elles sont obligatoirement à penser dans leur complexité, ces questions-là, Riyad Sattouf.
Mais oui, c'est vrai. Et c'est vrai que parmi les réactions les plus nombreuses que j'ai pour l'Arabe du futur venant du Moyen-Orient, ou que ce soit... ce sont des gens qui sont comme moi, un mélange des deux. Et ils me disent qui se reconnaissent vraiment dans l'arabe du futur, parce qu'avec cette difficulté d'être accepté peut-être complètement des deux côtés, parce que c'est un être à la croisée, un mélange comme ça, je crois que c'est le meilleur point de vue pour voir les absurdités des choses, et surtout à hauteur d'enfant, en fait. Quand on est enfant, les choses apparaissent vraiment plus clairement.
Aussi parce qu'elles apparaissent souvent avec plus de violence et plus de netteté,
oui,
et moins
vrai.
De filtre social. C'est aussi ça qui est la force du point de vue des enfants dans l'arabe du futur. C'est que, en tout cas, la manière dont vous les racontez, dont vous les rapportez, elles ne sont pas diluées, quoi. Elles sont pas encore aplanies par des convenances sociales telles que pouvaient les rapporter, par exemple, Fabienne Sintès et Christophe Ondelat dans le rapport dont ils parlaient il y a 20 ans, en 98-99. C'est, là, il y a une sorte de brutalité dans le discours de l'enfant que vous rapportez.
Oh, oui, bien sûr. Et ça fait partie aussi des choses qui sont très importantes pour moi de raconter les faits tels que je les ai vécus. Et mes lecteurs, déjà pour arriver à cet endroit du tome 4, il faut avoir lu les trois premiers. Mes lecteurs sont très intelligents et ils ont suivi toute l'histoire et ils voient ce que je veux dire, etc. Mais moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de dissimuler des faits ou de pas mentir, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, par peur ou des choses comme ça. Je ne vois aucune différence entre les gens de ma famille en Syrie ou les gens de ma famille en France. Et il est important pour moi de bien montrer comment chaque personne m'a parlé, a parlé, que ce soit mes amis, etc. Je trouve que c'est très libérateur, en fait. J'en ai besoin. Voilà.
Et aussi de dire que la bêtise est quelque chose d'extrêmement partagé, que la tendresse et l'attention est quelque chose d'extrêmement partagé, que la manière de regarder l'autre en le rejetant, parce que je sais pas, il y a aussi le racisme de votre père envers les Maghrébins, il ne cesse de considérer que c'est vraiment des personnes tout à fait stupides, qui comprennent rien à la vie et qui sont en France pour les allocations familiales. Enfin, il y a une sorte de distribution comme ça, très très égalitaire de la pensée étroite de l'autre, quoi.
Bah, bien sûr, c'était très important, justement, par mon expérience, d'en faire part et de le raconter, et sans exagérer, mais sans l'amoindrir non plus. C'est vrai que mon père était très raciste, alors il aimait pas les Noirs, il aimait pas les Juifs, mais il aimait pas aussi les Maghrébins. Il avait des avis sur chaque
et sur les Français qui étaient
sur les Français
racistes.
Alors il pensait que les Français étaient extrêmement racistes envers les Arabes. Il avait un complexe d'infériorité terrible. Mais voilà, ce sont des paradoxes, des contradictions que moi j'aime bien montrer, parce que ça complexifie les choses, voilà.
Est-ce que ça vous donne plus de liberté ou de précision pour penser le monde contemporain particulièrement complexe sur ces questions-là dans lequel nous vivons ?
J'avoue que j'ai beaucoup de mal à avoir une pensée sur le monde contemporain. C'est un truc très compliqué pour moi, parce que j'ai la sensation que la technologie et le progrès a ouvert les frontières, et que finalement tout le monde est en train de se rendre compte de comment vivent les autres. Quelqu'un à Kyoto peut tout à fait voir comment on vit à Riyad en Arabie Saoudite. Un mec en Arabie Saoudite voit tout à fait comment on vit à Anchorage, au Canada. Enfin, je sais pas. Et c'est forcément le mouvement va être vers une ouverture et un métissage. Enfin, les gens vont se mélanger, même s'il y a des replis identitaires, des replis communautaires, des replis nationalistes, ça ne peut pas durer, en fait.
Ça, c'est le voilà. Futur optimiste.
Moi, je suis très optimiste pour le futur, même si on a l'impression là qu'il y a des tensions partout. Mais on peut pas arrêter ça, en fait. On peut l'arrêter quand on a l'ignorance de ce monde, mais quand on a le savoir, c'est pas possible. Enfin bon.
Il y a une autre obsession qui est bien partagée, c'est celle de la masculinité et de la virilité, et donc par conséquent l'homophobie. C'est vraiment quelque chose qui à la fois traverse l'arabe du futur, mais qui traverse d'autres de vos travaux, Riyad Satouf, comme si c'était l'autre des trous noirs. Que peut-être il y a un des trous noirs autour duquel vous écrivez qui serait à la fin de ce tome 4, mais que l'autre trou noir, c'est la manière dont pèse sur les petits garçons et sur les jeunes hommes cette injonction à la virilité.
Oui, alors c'est pas forcément expérimenté de la même manière par tout le monde, mais c'est vrai que en ce qui me concerne, j'aurais adoré être hyper bon au foot ou être un gros balèze et pouvoir.
C'est marrant, vous prenez les choses dans cette manière-là.
Moi,
pas, vous n'auriez pas adoré vivre dans un monde qui vous imposait rien.
Maintenant, quand j'étais enfant, je me rendais pas compte de ça. J'aurais adoré être un soldat extrêmement puissant. C'est la prise de conscience, elle s'effectue au fur et à mesure. Du temps, quand j'étais enfant, je voulais être accepté par les autres, ça c'est sûr. N'étant pas accepté, ce que je raconte aussi dans le livre, on est un petit peu à l'écart, et on observe les choses, on se dit « Ah, nan, nan, c'est toujours les mêmes qui, gna gna gna, faut être un gros balèze pour faire ceci, cela. » Et donc forcément, ça place en position d'observateur, mais dans les faits, dans la façon dont, en tout cas quand j'étais enfant, la société, l'école, les groupes de garçons se construisaient entre eux, En effet, il fallait, pour être un garçon, il y avait tout un tas de critères à remplir. Et c'est vrai que l'homophobie, en fait, c'est comme l'antisémitisme. C'est deux aspects qui ont été très importants dans mon enfance et que je raconte dans l'Arabe du futur. C'est que quand j'étais enfant, on traitait de juifs.
Et de sales PD.
Et des sales PD. Et en fait, alors déjà, j'étais ni l'un ni l'autre, mais surtout, j'ai passé mon enfance à me dire, si je l'avais été, comment j'aurais vécu, en fait? C'est-à-dire, c'est terrible d'être rejeté et repoussé à cause de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et encore, moi, dans mon cas, c'est quelque chose pour lequel je suis resté très sensible. C'est vrai que ces questions de racisme sont des choses très sensibles et je m'y intéresse beaucoup et elles se dissimulent dans plein de domaines qu'on élude parfois. Mais c'est bien que l'homophobie est un des racismes les plus répandus sur Terre. C'est-à-dire, c'est dans tous les pays. C'est incroyable.
Très
quoi.
Obsessionnel.
Obsessionnel. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis à fond pour la lutte pour les droits des minorités sexuelles, etc. Et que ça se passe en France, et dans le monde européen, etc. Parce que dans le reste du monde, ça n'est même pas un débat, quoi. Je pense que c'est les progrès les plus importants à faire au 21e siècle, c'est faire accepter les gens dans leur diversité et partout, en fait. Voilà.
D'un seul coup, moi, je suis aussi remplie d'espoir parce que je me souviens là, à l'instant, en vous regardant parler, Riyad Satouf, que votre livre est très très vendu en France. Non, mais c'est vrai, est très très vendu, pas que en France. Donc peut-être que c'est étonnant. C'est à la fois, on décrirait cette espèce d'obsession pour le racisme, homophobie, antisémitisme, et en même temps, tellement de gens qui ouvrent ce livre, qui est à l'inverse, qui diffuse une pensée à l'inverse de tout ça. Vous êtes plus vendu qu'Éric Zemmour.
En fait,
vendu qu'Éric Zemmour.
Oui, peut-être, mais en fait, quand je suis allé au Brésil, j'ai rencontré un lecteur brésilien qui était brésilo-norvégien, je me rappelle. Et il m'a expliqué que lui, il avait passé une partie de son enfance en Norvège et une autre partie au Brésil. Et en fait, l'Arabe du futur lui faisait penser à cette espèce de double culture, etc. Et lui, c'était pareil. Mais, enfin, il y avait une vraie communauté de penser entre ces deux choses. Et pour revenir à Zemmour, en fait, moi, Zemmour, le personnage de Zemmour, il me rappelle mon père, en fait. C'est-à-dire que c'est le même genre de personnage. C'était un mec ultra-nationaliste. Si je m'appelle Riyad et pas Jean-Claude, c'est parce qu'il voulait pas qu'en Syrie, des gens, il me disait, t'es syrien, tu dois t'appeler Riyad et pas Jean-Claude. C'est pas possible. C'est des gens qui ont des visions de société fermée, mais il faut montrer comment ça fonctionne. Voilà, l'Arabe du futur, c'est aussi ça. C'est montrer comment on grandit dans un truc comme ça, comment on peut désactiver ces choses-là, comment tout le monde... Moi, c'est aussi, je pense que c'est aussi une des raisons du succès de l'Arabe du futur. Tout le monde a des gens dans sa famille qui sont comme les gens de ma famille. Voilà, mon grand-père français, il avait extrêmement peur que je devienne homo. C'était un truc... il m'en parlait tout le temps. Hein. Quand on marchait dans la rue, il voyait une jolie fille, il disait « Regarde là, regarde !» Il voulait que...
Il voulait être sûr de l'orientation sexuelle.
Voilà, exactement, c'était certain. Et c'est quelque chose qu'il faut raconter. Voilà, moi, c'est ça les choses que j'ai besoin de raconter.
Charles était fasciné par l'art. Être artiste et vivre de son talent, il n'y a pas mieux. Artiste, c'est la liberté. Regarde cette photo. C'est moi quand j'étais garde. C'est toi, ça ? Après la guerre, je suis parti au Maroc et j'ai ouvert un petit magasin de photos à Mogador. Je faisais des photos d'identité, ça me permettait de vivre et le week-end, je partais seul faire des images de nature. Oh, j'étais pas un grand photographe, mais je voulais oublier la guerre et changer ma vie. Un jour, j'étais dans mon magasin, et voilà qu'un Américain très impressionnant et gentil entre et me demande si j'accepterais de lui louer mon labo. Il m'explique qu'il vient d'arriver dans le coin pour tourner un film et qu'il aura plein de photos de tournage à développer. Tiens, c'est lui en photo, je suis à côté. Il s'appelait Orson Welles. Il tournait un film qui s'appelle Othello. Il était connu ? Ah oui, c'est un grand réalisateur. J'ai dit oui, bien sûr. Il n'avait pas d'argent pour faire son film, alors je lui ai tout développé gratuitement. Il venait au labo et on parlait dans le noir, en buvant un coup. Il était incroyable. Il réalisait le film, le produisait, jouait dedans le rôle d'Othello. Mais c'était compliqué. Il n'avait pas d'argent, il tournait un peu, puis repartait en Europe, faire l'acteur pour payer le film. Et l'équipe attendait sans rien faire. Il bronzait toute la journée. Tu vois cette jolie fille à côté de moi sur la photo ? C'est Suzanne Cloutier, l'actrice principale du film. C'était la femme de Peter Ustinov. Elle m'aimait bien, mais moi j'étais trop timide. J'ai fait figurant gratuit dans plein de plans. Il changeait mon costume ou me mettait de dos. Je lui disais « Orson, ça va se voir que c'est toujours moi, non ?» Il riait et disait « Charlie, arrête de poser des questions et fais ce que je dis. » Il expliquait ce qu'il voulait à son décorateur, mais comme il ne comprenait pas, Wells prenait des planches et des clous et construisait le décor seul. Il savait tout faire, ça se voyait tout de suite que c'était un génie. C'était un visionnaire, un grand artiste, qui n'abandonnait jamais. Un surdoué, comme toi. Tu as un don, comme lui. C'est une grande chance. J'ai jamais vu Othello par contre, il est jamais passé à la télé. Tiens d'ailleurs, c'est l'heure des chiffres et des lettres.
Je me suis dit qu'il était important qu'on parle un petit peu de Charles. Ce personnage-là, Riyad Satouf, Romain de Bec de Lièvre, lit un extrait du tome 4. C'est un extrait où il parle au petit garçon que vous êtes et où il lui transmet, je crois, vraiment plein de choses. Et il fait partie, parce qu'en filigrane, il y a aussi la manière dont vous vous construisez en tant qu'auteur. On sent tout ce qui met un enfant sur la piste de ce qu'il va pouvoir faire plus tard. Je sais pas, ce serait le bon adulte, ce Charles.
C'est vrai que dans l'Arabe du futur, il y a plusieurs personnages de masculins très importants. Donc il y a mon père qui était raciste, moderniste, mais très brutal en fait. Il y a mon grand-père maternel qui lui était de la milieu ouvrier, etc., et qui était extrêmement obsédé sexuel. Et il y a ce personnage qui est mon beau-grand-père, je ne sais pas si on peut dire ça autrement, c'était ma grand-mère française, s'était remariée avec lui, qui s'appelait Charles, qui lui était beaucoup plus doux, en fait. Et c'était quelqu'un de très, très calme, très doux, qui était, comment dire, compréhensif, et qui, en effet, quand mon père disait des choses racistes, il les nuançait, il parlait de sa propre expérience, parce que lui-même avait grandi au Moyen-Orient, enfin, avait pas grandi, mais j'ai fait un lapsus, mais lui-même avait passé une partie de sa jeunesse au Moyen-Orient après-guerre, et surtout, il avait un respect et un amour très important pour l'art. Et ça, c'est vrai que je lui dois ça, je crois, parce que c'est vrai que dans ma famille, tout le monde, entre guillemets, admirait le fait que je dessine, par exemple, parce que personne dans ma famille n'avait jamais dessiné depuis le paléolithique, je pense, et donc ils n'en revenaient pas qu'il y en a un qui aime faire des dessins toute la journée. Donc ma grand-mère française était certaine que je deviendrais un immense dessinateur, mais elle connaissait pas les dessins, elle connaissait pas le comment faire pour y arriver. Mon grand-père maternel, lui, bon, voyait ça un peu comme un hobby. Mon père, il trouvait ça complètement nul. Il voulait que je sois médecin. Mais Charles, lui, pour le coup, il avait vraiment une vision artistique et il me parlait de son expérience. En effet, il avait été figurant sur Othello d'Orson Welles. Et il m'en parlait très souvent. Ça l'avait fortement impressionné, le fait que quelqu'un comme ça, que Orson Welles, puisse se battre tout seul contre des gens qui ne comprennent rien ou contre juste pour l'amour de son art, parce qu'à l'époque c'était encore plus incroyable qu'aujourd'hui de faire des films, enfin c'était complètement fou et il en avait été très fortement impressionné et il m'en parlait très souvent et sans manquer de me valoriser en me disant que j'étais de la même trempe que Orson Welles. Donc moi j'y connaissais rien, mais je pensais qu'il devait avoir raison. Et c'est vrai que cette vision positive de l'art et de l'expression artistique et du fait de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, je lui dois beaucoup là-dessus, parce qu'il avait aussi beaucoup de livres qui me prêtait. Alors, il les lisait pas, il les avait hérités, mais il les gardait précieusement en me les donnant, en me disant que c'était très important. Il avait une transmission qui a été, je pense, très importante, oui. Et je le raconte dans l'humilité, surtout beaucoup plus doux que
c'est ce
autres.
Que j'allais dire. C'est surtout un contrepoint très important de douceur et de calme, parce que, je disais en début, en introduction, cet entretien, les portes claquent, le téléphone sonne, il y a des imprévus, il y a de la violence, mais vraiment, elle est très présente, elle est très quotidienne. Et là, dans ce personnage-là, il y a quelque chose de, je sais pas, où on souffle un peu, quoi.
C'est peut-être le personnage dont parlait Alice Miller dans ses livres, justement, qui s'appelle le témoin positif, qui est une personne à laquelle on peut se référer et qui est peut-être en contradiction avec ce qu'on a autour de nous. Et c'est vrai que c'est possible. Mais c'était important aussi pour moi de le montrer, parce que voilà, il a été là, il existait, et c'est justement le contrepoint souvent les portes sont toutes petites, mais on peut passer à travers. Voilà, je voulais montrer ça, c'était très important.
Je crois qu'il y a des peintres, et d'ailleurs des cinéastes, qui, en particulier au XXe siècle, ou jusqu'au XXe siècle, ont eu conscience de la valeur mystérieuse, énigmatique, troublante, inquiétante étrangeté, de l'ombre, non pas seulement l'ombre portée par un être, mais de cette ombre qui est la négation de la lumière. Je pense à quelqu'un comme des Chirico au XXe siècle. Les peintures de des Chirico sont des peintures extraordinairement lumineuses. Le monde qu'il peint est le monde d'où il vient, c'est-à-dire le monde méditerranéen, avec une lumière extrêmement dure. Et en même temps, dans cette lumière extrêmement dure, il y a des zones qui sont des zones architecturées, d'immenses colonnades formidablement sombres. Il y a des bâtiments qui projettent sur des places inondées de lumière une ombre formidablement noire. Il y a, j'ai souvenir d'un tableau où une petite fille joue au cerceau et l'ombre du cerceau court devant elle comme si elle n'allait jamais rattraper le cerceau. C'est mieux sans doute que si le cerceau et l'ombre couraient derrière elle. C'est comme si s'élevait, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, une face obscure, non contrôlée, la part d'ombre de chaque être. C'est peut-être ça qui fait peur dans l'ombre.
C'est Nadège Lanéry d'Agen en 2004 sur France Culture qui parle de l'ombre et de l'ombre portée. Je ne sais pas si c'est dans ce tome-là, Riyad Satouf, que quelqu'un réalise que ce que vous dessinez le mieux enfant, c'est les ombres, ou si c'est dans les tomes d'avant. En tout cas, petit, quelque chose se dessine pour vous dans cet art-là. Et en effet, c'est très présent. Je parlais des aplats de couleurs qui distinguent certaines époques, certaines géographies ou des choses qui marquent. Je me suis parfois demandé, mais le rouge, c'est pourquoi? Et ce rouge si précis, c'est pourquoi? Le vert, c'est pourquoi? Comme si il y avait dans la manière de rapporter les souvenirs presque des codes couleurs.
Ah oui, bien sûr, je me suis imposé des contraintes très fortes dans les couleurs de l'Arabe du futur. C'est-à-dire, de chaque pays, je me suis autorisé une seule couleur, qui est la couleur dominante de mes souvenirs. Donc en Libye, il faisait justement très chaud, très lumineux. Donc c'était le jaune qui dominait, donc la Libye c'est jaune. La Syrie, il y avait le rouge rose de la terre, très ferreuse. Donc je me suis dit, la Syrie sera rose. Et la Bretagne, c'était le bleu de la mer permanent, le ciel un peu bas, qui était à la fois bleu et gris. Donc je me suis dit, ce serait un gris bleuté pour la France. Et en fait, dans chaque pays, je me suis autorisé à utiliser les couleurs du drapeau de chaque pays. Comme le livre parle de nationalisme, donc en France, je m'autorise le rouge. Et en Syrie, par exemple, je m'autorise le vert et le rouge. Le vert des étoiles du drapeau et le rouge présent aussi sur le drapeau. Et parce que c'était une manière de me limiter et de avec peu d'éléments d'essayer d'exprimer le plus de choses possible. Les couleurs, c'est très très important. C'est vrai que j'ai voulu aussi emmener mon lecteur, le dépayser, lui faire ressentir le déracinement à travers ses couleurs, parce que quand on regarde du jaune tout le temps, du jaune, on est en Libye, on s'habitue au jaune, paf, d'un coup, le monde semble ne pas avoir changé, même si les codes, les techniques, les gens sont plus vraiment les mêmes, le style de dessin est toujours un peu le même. Et là, d'un coup, on est dans le bleu, on est en France. Et donc, on s'était habitué au jaune, le bleu, ça fait autre chose, c'est quelque chose de biologique dans l'œil. Donc, c'était important pour moi de faire ressentir aussi au lecteur, là, avec des sensations, en fait, ce voyage permanent entre plusieurs lieux complètement différents, avec des ambiances complètement différentes.
Et en même temps, parfois, il y a des cases ou des zones d'images qui sont d'un seul coup rouges ou qui sont d'un seul coup vertes, et on se dit, peut-être c'est un souvenir marquant, peut-être ça a été ce qui a été important ce jour-là, un objet. Et comme on entendait cette historienne de l'art parler de l'ombre comme l'inquiétante étrangeté, qui est vraiment un terme freudien, je me suis demandé ce qu'il y avait de l'analyse ou de la psychanalyse dans l'Arabe du futur. Est-ce qu'il y a des traces de ça, de cette pratique d'association d'idées, de souvenirs, de rêves, de réminiscences?
Peut-être, hein, c'est vrai que c'est possible. J'ai toujours adoré j'ai lu beaucoup de livres de psychanalyse quand j'étais plus jeune. Je me suis intéressé aux symboles, aux archétypes, etc. Tous les Freud, Jung, Ferenczi, enfin j'avais lu plein de...
Je trouve que ça sent.
Eh bien, c'est vrai que ça m'avait fortement marqué. Notamment, c'est vrai que les rêves, alors surtout en bande dessinée, il y a quand même une tradition. Moi, enfant, c'était comme si c'était des rêves que j'avais vécu, mais les rêves dans Tintin, par exemple, me poursuivent encore aujourd'hui. Et souvent, dans Tintin, il y a une, les personnages ont des ombres quand ils rêvent. Dans Le Crabe aux Pinces d'Or, si je ne me trompe pas, je crois qu'à un moment, ils sont dans le désert, ils sont en train de mourir de soif. Et donc, Tintin rêve que le capitaine Haddock l'attrape et le prend pour une bouteille de vin et veut lui mettre un tire-bouchon dans la tête pour lui déboucher la tête. Et le soleil tape, et c'est un des moments où, quand ils sont dans le désert, où il y a des ombres au sol dans Tintin. Normalement, il n'y a jamais d'ombre. Et je sais que ça m'avait très fortement marqué aussi, toutes ces scènes-là. Et quand j'ai pu en mettre dans l'Arabe du futur, c'était essentiel pour moi, parce que l'enfance est aussi faite de très nombreux rêves et qui sont souvent très signifiants. Les rêves font avancer le récit. Et c'est marrant, quand cette personne parlait des ombres, moi, à force de réfléchir, parce qu'il y a beaucoup d'ombres aussi sur la couverture de l'Arabe du futur, et un symbole, c'est que le soleil est souvent un symbole paternel, et c'est la lumière du monde qui nous éclaire, et la lumière du Père, et l'ombre, c'est aussi l'endroit où on peut se réfugier pour être soi-même, et c'est à la fois terrifiant, mais c'est le lieu où on est caché de ce soleil brûlant. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de ça dans l'Arabe du futur.
C'est magnifique.
Ah, merci Marie.
Merci beaucoup. J'aurais pas dû conclure comme ça parce que j'ai introduit de l'ironie alors que pour de vrai, je le pensais.
Mais il y a toujours de l'ironie, tout le temps.
L'Arabe du futur, on en est au tome 4, il y aura peut-être un 5, un 6, mais après ce sera fini.
Oui. Pas pour moi, pas fini comment dans ma vie. Non,
non, l'Arabe du futur.
Non, l'Arabe du futur, c'est le début de ma carrière. Après, je vais faire d'autres livres, j'ai plein d'autres projets.
On peut aussi signaler les cahiers d'Esther qui existent maintenant en dessin animé et tout plein d'autres choses qu'on mettra sur le site internet. Tout ça paraît aux éditions Alary, en tout cas ça et ça. Merci beaucoup.
Merci.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo.
Au son ce soir, c'était Bernard Laniel, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve à 21h demain. Quand vous voulez, sur franceculture.fr, vous pouvez trouver la liste des archives et des musiques diffusées, réécouter l'émission et celle d'avant et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Jeanne Aléos, Lou Quevauvillier, Anna Baron, Romain de Becdelièvre, Marianne Chasseur qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France Culture.
Maintenant que je fais du musical, je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman. Moi je voulais les sorties de port à la voile, la nuit parée des étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau clown, la belle Peggy du saloon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman bobo. Comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait. fait, je suis pas beau. Alors, mon...